Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Comment le sida se vit-il à l'hôpital, du côté des équipes soignantes, du côté de ceux qui, le jour et la nuit, sont là pour les personnes chez qui la maladie s'est déclarée? Comment ces individus vivent-ils leur relation avec les malades, avec leurs souffrances, avec leur mort annoncée? Telles étaient, en 1992, les questions que posaient les soignants au cœur des années sida à un documentaire de Ludovic Cellier pour Grand Angle. À l'hôpital Béclair de Clamart, dans le service accueillant des malades du sida, des internes, des médecins, des infirmières, des psychologues, des kinésithérapeutes, des aides-soignantes, disaient ce qu'était au quotidien la prise en charge du sida, ce que cette maladie exigeait d'eux, chacun à leur place, dans leur travail. Et au-delà, comment elle s'était installée dans leur vie au fil des mois, des années, comment, à travers ce qu'elle tuait dans le service jour après jour, elle les touchait au plus intime, personnellement.
Grand Angle, les soignants au cœur des années sida, par Ludovic Cellier et François Bréhignet. Du sida, tout ou presque de ce qui pouvait être dit, a été dit. Les malades ont souvent été interrogés, filmés, photographiés. Les amis, les parents, les conjoints et jusqu'aux volontaires des associations de lutte contre le sida, tous ont été passés au crible de l'interview. Est-ce parce que leurs blouses blanches les font se fondre sur les murs blancs de l'hôpital? Est-ce à force de discrétion? Est-ce leur confrontation singulière à la maladie qui a éloigné les soignants de la réalité médiatique du sida? Toujours est-il que les personnels soignants, agents hospitaliers, aides-soignantes, infirmières, internes, psychologues, kinésithérapeutes, médecins, dans le cadre de leur travail, ont souvent été oubliés. Simple hasard des programmations ou signe des temps pour contribuer à la journée mondiale de lutte contre le sida du 1er décembre, France Culture a décidé de s'intéresser à eux. Dans le même temps, l'assistance publique, l'organisme qui régit les hôpitaux de Paris et de sa région, prépare une exposition de photographies dont ils sont les sujets.
Pas de traumatisme crânien récent, pas de porte d'entrée infectieuse, pas de photophobie, pas de raideur de la nuque. Le patient se présente donc le 18-11 aux urgences et est hospitalisé dans l'aile d'Ormont.
Qui sont les soignants? Ont-ils évolué au cours de ces 10 années de sida? Comment réagissent-ils à l'arrivée en masse de sidéens dans leur service? Le changement est-il seulement professionnel ou le phénomène de société sida a-t-il tout chamboulé des valeurs, des savoirs et des croyances du monde hospitalier? Autant de questions que nous avons posées à l'équipe des professeurs d'Ormont et d'Elfrécy de l'hôpital Antoine Béclair de Clamart dans les Hauts-de-Seine. De l'hôpital de jour, où les patients ne font que passer, au service d'hospitalisation et de réanimation, qui occupe deux ailes de cet étrange bâtiment triangulaire, posé sur pilotis de béton, nous avons suivi pendant plusieurs jours les équipes qui se succèdent, 24 heures sur 24. Avec 60% de sidéens, dont 40% de toxicomanes et 30% de femmes, le sida, peu à peu, a investi l'existence des soignants. Claude et Roselyne, respectivement infirmières et aides-soignantes, nous ont accueillis au rez-de-jardin dans l'hôpital de jour. Il est 9h, un matin entre l'automne et l'hiver, hôpital Antoine Béclair.
Moi j'ai choisi cette profession pour m'occuper des malades. Donc je suis bien à ma place, je suis bien là où je suis, peu importe la maladie. J'ai travaillé en maternité par exemple et j'ai demandé à changer. Parce que pour moi la maternité, des gens qui... femme qui attend un bébé, c'est pas une maladie.
Vous préférez les gens qui vont mourir?
Pas les gens qui vont mourir, mais c'est vrai que... c'est vrai qu'ils... trois quarts meurent, mais... non, c'est m'occuper des malades, c'est sûr. Bon, c'est comme ça, je crois que...
Mais l'accumulation des morts, c'est pas difficile à vivre?
Si, des fois, c'est difficile à vivre. C'est difficile à vivre, des fois. Certaines personnes, c'est vrai, vous les voyez, elles sont jeunes. Dites, bon...
Et la dégradation physique des patients?
Ah oui, ça c'est pénible. Ça, c'est pénible, et c'est ce qu'on voit ici à l'hôpital de jour. C'est la dégradation, moi, je trouve, qui est pénible. Vous les voyez bien. Et au bout de quelques mois, vous les voyez quand même se dégrader. Vous les voyez à la limite qui peuvent à peine marcher. Ou à la limite, les brancardiers nous les emmènent sur des... sur les chaises. Vous voyez certains lutter, quand même. C'est-à-dire que vous leur dites, bon, ils ont une radio à faire, vous leur dites, bon, vous, on va vous amener en chaise, je vais vous amener en chaise si vous voulez. Non, non, il faut que je marche encore, il faut que, bon... Ça, c'est pénible, parce que vous vous dites, bon, il a envie de marcher. Vous le laissez marcher, même si de temps en temps, il se tient au mur. Mais ça, c'est pénible. Ici, j'avoue que ça, c'est pénible. Et nous, ça nous arrive ici, Joël, Claude et moi, toutes les trois, quand on s'est attaché à certaines personnes, bon, d'abord, on va les voir en haut, au troisième étage, et quand ils décèdent, on va, des fois, ça nous est arrivé d'aller à la levée du corps, à la morgue.
Est-ce qu'il vous est arrivé parfois, vous, Claude, de vous dire qu'il y a peut-être différentes catégories de malades ? Entre la maman, le transfusé, l'homosexuel, le toxicomane, est-ce que vous vous dites finalement il y a des malades qui l'ont plus cherché que d'autres ?
Ah non. Ah non. Ah non, je crois pas. Hein. Je crois vous dire la vérité quand je vous dis non. Hein. Non. Ah non, non, non. Moi, ce que j'aime, c'est faire les soins avec, en ayant du temps. C'est-à-dire en prenant mon temps à m'asseoir et à parler de, aussi bien de la maladie que d'autres choses. Hein. J'y crois, donc j'espère que je le fais bien. Et puis, ce qu'on leur apporte moralement. Moi, j'aime mon métier, donc oui, je pense que oui. Je leur apporte quelque chose.
Non, non, pour moi, c'est une maladie comme une autre. Hein. C'est pas... Il n'y a que Le Pen pour dire que c'est, c'est une maladie autrement. Non, non, pour moi, c'est une maladie, point à la ligne. Hein. C'est, si vous regardez bien dans l'histoire, les gens qui ont eu la peste, la syphilis, des trucs comme ça. Non, pour moi, c'est une maladie comme une autre, point à la ligne.
Quand vous sortez d'ici, vous arrivez à ne plus penser au sida ?
Il faut au moins une heure ou deux. C'est-à-dire que quand je sors d'ici... Je vais faire mes courses, je fais trois fois le tour du magasin, je me rappelle plus ce que j'ai acheté. Et que bon, c'est vrai qu'on pense encore à ce patient-là, bon, ben, il n'était pas bien, celui-là, bon, et pourquoi ça, voilà.
T'as une forêt à toi ?
Non, elle a un champ et elle le plante.
Une forêt ? Je sais pas, si j'avais une forêt...
Quelques heures plus tard, quelques étages plus haut, le service d'hospitalisation continue. Il est l'heure du déjeuner, on avale vite fait un plateau repas. Les toilettes des malades s'achèvent. Corinne, aide-soignante.
J'ai tout prévu.
Et si elle n'arrive pas ce soir,
je ne pouvais pas venir. Ça fait longtemps que j'ai prévu. Très longtemps.
Enfin, moi, j'ai trouvé que ça faisait beaucoup.
Parce qu'il y a une canine, c'est fait pour ça.
Alors ? Excusez-moi, vous asseoir. Marie-Claire est au bord de la...
Mais Marie-Claire, déjà hier.
Elle aurait dû prendre une journée, ce que je leur disais.
On prend demain, on est quatre encore. Demain.
Un samedi,
demain,
sûrement.
C'est
samedi,
ma copine. On m'a dit hier, hein, Isabelle. Tu peux prendre des jours, hein, je lui ai
oui, on l'avait
proposé hier.
Hier, elle m'a fait faire ses papiers parce qu'elle était paniquée. Elle les avait déjà fait.
Vous faites partie de l'équipe des soignants. Il y a quelques instants, on était ici réunis ensemble, à plusieurs. Il y avait un certain nombre de vos collègues. Et puis, il y a des gens qui commencent à craquer. Ça vous arrive, vous, d'avoir des coups de déprime, des moments où vous craquez ?
Tout à fait, même assez souvent en ce moment.
Pourquoi ?
Pourquoi ? Il y a plusieurs choses. Beaucoup de travail... C'est quand même un service assez lourd, beaucoup de responsabilités, la famille. Le personnel, il n'y en a pas beaucoup. Puis tout ça, à un moment donné, ben, on craque, quoi. Comme l'infirmière tout à l'heure. Je crois que tout tout fait craquer, quoi. Un jour, je veux dire, on craque pas souvent, hein, c'est rare. Mais là, bon, bah, c'était aujourd'hui. Bon, bah.
C'est la journée.
Ouais, c'est la journée. Il y a des jours comme ça où ça va pas.
C'est aussi parfois lié aux malades.
Oui, aussi. C'est vrai qu'on s'attache à certaines personnes.
Ça vous est arrivé, vous?
Ah oui, tout à fait, ouais. Ouais. On s'habitue à la personne, on la connaît. Et c'est vrai qu'on s'attache beaucoup. Puis le jour qu'elle disparaît, ben, c'est vrai que ça fait mal. Bon, maintenant, ça va mieux, quoi. On arrive à comprendre qu'on ne peut pas faire autrement. Je veux dire, on essaye d'être dur, on essaye d'être forte, mais c'est pas évident, hein, des fois. C'est vrai qu'on s'aime bien, on a une très bonne équipe de garde et on se soutient. Je veux dire, quand il y a le moindre problème, on vient en discuter, on dit ce qui va pas et après tout va bien, on respire un bon coup et puis tout va bien. Je veux dire, heureusement qu'on est soudés.
Ça serait pas possible sinon.
Oh non, oh non, 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 non. Je crois qu'il faut avoir les coudes très serrés. On ne peut pas lutter seul. C'est pas possible. C'est trop dur, c'est trop lourd. Il faut qu'on soit une petite bande, quoi.
Et les malades, ils craquent aussi?
Les malades craquent, non, pas particulièrement. Non, non. Ou je le vois peut-être pas. Mais non.
De quoi vous parlez avec un malade du sida?
On parle jamais de maladie.
Ils vous parlent de leur vie?
Ouais.
De leur vie amoureuse, de leur vie sentimentale,
oui, il y en a certains, oui. Nous, c'est nous, en fait, qui demandons qu'est-ce qu'il fait comme métier, ce qu'il aime, tout ça. Je veux dire, on essaye de leur parler d'autre chose que de la maladie.
Avant de venir ici, avant d'être confrontée au quotidien avec des malades, est-ce que vous aviez conscience qu'il y avait cette maladie, qu'elle était si brutale?
Eh ben non. Non. Je m'en suis rendu compte, c'est depuis que je travaille ici. Mais c'est vrai qu'avant, on n'en parlait pas, je veux dire.
Vous avez de l'admiration pour les malades?
Ah oui, ça c'est vrai qu'ils sont très forts et puis que on a l'impression qu'ils vont s'en sortir, quoi. Ils ont toujours l'espoir. Bon, nous, on sait comment ça se passe, quoi. Je veux dire...
Vous n'êtes pas dupe?
Non. Ben, pour l'instant, non. Mais un jour, bon, ben, ça viendra, hein, le médicament miracle.
Vous y croyez?
Ben oui, ouais, il faut. Il faut y croire parce que...
Vous disiez que ça vous arrivait souvent en ce moment de craquer. Est-ce que vous avez peur un jour de craquer complètement et de partir?
Ça m'est déjà arrivé, ouais. 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 Parce que ça me fait quand même un peu peur, là.
Et quand vous rentrez chez vous?
J'essaye de faire un vide, mais c'est pas évident. Je pense toujours à l'hôpital, constamment.
Vous saviez, quand vous avez choisi ce métier, que ça vous arriverait, forcément, d'être confronté à des gens qui sont en train de mourir?
Non, j'ai... Non. Je voyais pas ça comme ça, je veux dire. Il faut vivre pour voir comment ça se passe, quoi.
C'est pour ça que vous allez planter des arbres, après?
Ouais, pour me changer les idées.
Est-ce que vous diriez, au bout du compte, que vos malades, vous les aimez?
Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on les aime. Je veux dire, c'est des personnes, c'est des êtres humains. Je veux dire, un jour, moi, je me mets à leur place. Je dis peut-être que ce serait moi qui serais dans le lit... C'est ça, en fait, c'est ce que je me dis. Quand je vois un malade, je dis, peut-être qu'un jour, ça m'arrivera, ce sera moi qui ira dans ce lit-là, et j'aimerais bien que la personne qui sera là, comme aide-soignante ou infirmière, soit sympa avec moi, et j'essaye de faire le maximum aussi, pour qu'un jour, ça m'arrive aussi, que je trouve une personne agréable le jour où je serai hospitalisée.
Et les malades toxicomanes ?
Eh bien, j'ai un peu peur de ce genre de personnes. Ça me fait peur. Franchement, oui.
Pourquoi ?
Pourquoi ? Parce que ça arrive de... Je veux dire... Ça arrive qui se droguent dans le service ou... On en a vu pas mal, hein, et ça me fait vraiment peur. Un jour, je sais pas, il peut arriver n'importe quoi, et c'est vrai que ça fait peur. C'est surtout ce genre de personnes qui me font peur. Les toxicomanes, ouais.
Mais pourtant, vous les soignez comme tout le monde ?
Ben oui. Si on peut pas les rejeter, hein. On peut pas les rejeter parce qu'ils sont toxicomanes. On ne sait pas ce qui s'est passé avant, on ne sait pas, je veux dire, un jour ou l'autre, on peut devenir comme eux, on n'en sait rien du tout, hein, je veux dire, on ne peut pas les repousser. Mais c'est vrai que c'est des gens qui font peur quand même. C'est pas parce qu'ils sont HIV, c'est pas ça. Ça, on oublie complètement, en fait, j'y pense même pas. J'y pense pas, hein, je pense pas du tout à cette maladie-là quand ils arrivent.
Il y avait un malade qui était en face, qui voulait absolument sauter sur tout ce qu'il y avait des jupes. Et elle, en général, est la seule à avoir une jupe et à être en civil. C'est la seule fois où je l'ai vue avec un pantalon le lendemain. On l'a envoyé à l'hôpital psychiatrique dès le lendemain.
Qui, Yvette ou
non, le malade.
Donc on rit aussi parfois, Isabelle, dans les services où les malades du sida sont là.
On rit beaucoup de toute façon, parce que sinon c'est triste, alors faut rire.
Et on discute de quoi ?
Bah ça dépend, si c'est sur leur maladie, c'est à eux de s'exprimer sur leur maladie. Nous, on ne pourra pas échanger, ou alors si on les voit coincés et qu'ils veulent parler de la mort, on essaiera de les pousser à s'exprimer, de façon à lâcher leur angoisse, mais c'est tout.
Qu'est-ce qu'ils vous disent de leur maladie ?
Il y en a qui n'en s'expriment pas beaucoup. Il y en a d'autres qui les nient totalement. On a un patient qui, jusqu'au jour de sa mort, n'a jamais exprimé sa maladie. Et le jour où il est mort, la veille au soir, il m'a dit « Isabelle, comment on meurt d'un cancer ?» alors qu'il avait un sida qui lui avait déclenché un lymphome thoracique.
Et vous comprenez ça ?
Oui, c'était sa façon de nier son sida et de nier sa mort prochaine. C'est sa façon de continuer à avoir une vie normale avec sa femme et avec son fils. Et il ne voyait plus ses parents parce qu'il s'était... Il s'était fâché avec eux, probablement à cause de sa maladie. Quand je discute avec les gens, je ne mets jamais de hier. Je leur dis effectivement qu'il allait mourir, qu'il risquait de sentir angoissé, qu'il risquait de se sentir étouffé, qu'il fallait pas qu'il hésite à sonner pour qu'on le calme, pour qu'il ne s'étouffe plus. Et c'est tout.
De quel type de malade vous vous sentez le plus proche ?
Les transfusés sont en général des gens agressifs. Parce qu'ils ont l'impression que c'est nous qui leur avons donné la maladie. Donc c'est plus difficile d'avoir un rapport avec eux. En général, les malades transfusés sont des malades agressifs envers nous. Ils parlent peut-être avec d'autres personnes, mais pas avec nous. Nous sommes les gens qui les soignons, mais les gens qui les avons contaminés, donc finalement leur tortionnaire, finalement.
Vous êtes d'accord avec cette idée ?
Pas du tout. Parce que je pense que s'ils n'avaient pas été transfusés, ils seraient peut-être déjà morts et à belle lurette. C'est aussi ça qu'ils ont tendance à oublier. S'ils ont été transfusés, c'est qu'il y avait une raison valable.
On transfusait même pas à l'époque les gens pour rien.
C'est douloureux de travailler dans un service comme celui-là?
Oui, c'est douloureux. C'est douloureux quand on perd quelqu'un qu'on connaît bien, et puis quelqu'un avec qui on a des liens qui sont plus proches. On n'est pas toujours proche de tous les malades, heureusement, sinon... Mais il y a des gens qu'on perd dans le service, qu'on perd comme si c'était quelqu'un de sa famille, parce que c'est quelqu'un qu'on suit depuis un an, deux ans.
Il vous est déjà arrivé d'avoir peur, dans certaines circonstances?
Peur? Non, mais par contre, je fais toujours attention, par exemple avec les toxicomanes, je vais toujours essayer de chercher un médecin pour qu'il leur donne un traitement efficace pour les calmer. Je ne vais pas attendre de me faire taper dessus. Il y a quelques jours, on a une toxicomane dans le service qui était en manque. Bon, le temps que l'interne prescrive quelque chose d'efficace pour elle, puisque c'était quelqu'un qui se drogue à de très fortes doses de drogue dure, bon... Elle s'était re-shootée dans la salle de bain. On a retrouvé le garrot dans la salle de bain une heure après. C'était trop long pour elle. Elle a réussi à trouver de la drogue entre les deux. Et le lendemain, elle s'est enfuie parce qu'elle n'a pas réussi à trouver ce qu'il lui fallait. Monsieur, c'est un patient en sida qui vient de passer de réa aujourd'hui.
Il va un peu mieux.
Monsieur X, il n'y a pas de problème.
Alors, ce qui marche le plus, ce que je te conseille, c'est le bain de douche à l'aspect.
C'est un amnésique, hein, c'est pas quelqu'un qui garde l'anonymat. Monsieur X, alors lui aussi, c'est un emmerdeur. C'est un sida toxicomane actif, il y a de la fièvre.
La nuit est tombée, c'est l'heure du passage de relais de l'équipe de garde à l'équipe de nuit. Véronique, une des trois infirmières de cette équipe, occupe ce poste depuis 10 ans. Une nuit encore, elle tiendra jusqu'à 7 heures le lendemain matin. 10 ans de service pour Véronique, pour 10 ans de sida en France.
Dans le travail même, je fais une différence quand au moment de la transmission, justement, on nous annonce un séropositif. Je demande toujours le mode de contamination. En gros, en demandant s'il est toxicomane ou si c'est un mode de contamination sexuelle, hétéro ou bisexuelle ou homosexuelle. Parce que pour l'organisation du travail, ça va être différent. Un toxicomane est un malade qui peut être agité, qui peut poser des problèmes. Et moi, j'ai besoin de savoir quel est son mode de contamination. Ils viennent se faire soigner pour une pathologie X ou Y. Ils viennent pas du tout pour une désintoxication. Et en France, on cherche absolument à les désintoxiquer dans les services médicaux.
Vous pensez qu'il faudrait les autoriser à continuer à pratiquer leur toxicomanie?
C'est une grande hypocrisie. On sait très bien qu'ils sont toxicomanes. Et on veut à tout prix les sevrer, leur interdire. Enfin, on leur interdit pas. Enfin, bon, s'ils ont des visites qui leur amènent ce qu'il faut dans la journée, à la limite, on est plus tranquille, nous, la nuit. Il faut être clair, il faut être honnête. On est là pour... Il n'y a pas que des toxicomanes, il y a aussi d'autres patients. Et on doit respecter un minimum de sécurité, ne serait-ce que pour les autres malades. On peut avoir des relations de courtoisie, mais pas au-delà. Parce qu'il ne connaît pas la limite. Un toxicomane est quelqu'un de très particulier.
Allô? Oui, bonsoir. Oui? Non, t'as pas de lit? Non, on n'a pas de lit. Merci, au revoir.
C'est les urgences qui vous appellent pour vous demander un lit.
S'il y a des lits.
Ça arrive souvent?
Tous les soirs.
Nous sommes ici depuis tôt le matin. Il est tard, il est quasiment 23h. Le bruit change ici dans le service, c'est beaucoup plus calme, il y a moins de gens, moins d'agitation. Et le silence vous fait pas peur des fois quand vous êtes ici toute seule?
Non, c'est plutôt le bruit qui nous fait peur, parce que s'il y a un bruit, il faut s'inquiéter, quoi.
Les portes qui s'ouvrent,
Ça peut être aussi bien une grand-mère qui se promène, qui déambule dans les couloirs, ça peut être aussi bien un toxicomane qui cherche à subtiliser des médicaments, ça peut être des gens extérieurs à l'hôpital qui viennent y faire on ne sait pas quoi. Donc on est très attentif au bruit et un bruit est anormal en fait.
Est-ce qu'il y a une angoisse spécifique à travailler la nuit, Sylvie?
Une angoisse peut-être par rapport au malade quand on ne sait pas résoudre un problème, mais on n'est jamais toute seule, donc il y a toujours la copine s'il y a un problème, pour on le résout toujours à deux. À deux ou à trois quand on est trois.
Non, pas plus. Oh, elle est isolée en plus.
Que se passe-t-il?
Eh bien, il y a une malade atteinte du sida qui n'a plus toute sa tête. Et qui rentre chez une patiente qui est isolée, pour qui il faut s'habiller.
Est-ce que la nuit, plus particulièrement, plus que le jour, tous les chats sont gris, tous les malades se ressemblent, tous les malades ont les mêmes attentes, les mêmes besoins, les mêmes peurs?
Non. Les malades ont beaucoup plus peur la nuit. Parce que la nuit, comme vous l'avez fait remarquer tout à l'heure, il n'y a plus de bruit, il n'y a plus d'activité dans les services. D'abord, il fait nuit. Et notre problème principal, c'est le problème de la douleur la nuit, que les équipes de jour ou d'après-midi ne ressentent pas. Ou avec un temps de retard, avec 3-4 jours de retard, toujours. C'est toujours été le problème de la nuit. Les malades commencent à avoir mal ou à avoir des angoisses la nuit. Puis quand ils s'aggravent encore un petit peu, ça commence dans l'après-midi. Puis quand leur état général s'aggrave encore, ça fait après les 3 équipes. Ce qui fait qu'on a toujours un temps de retard et qu'au niveau... Souvent, au niveau prescription, on n'est pas suivi. Parce que le médecin n'est pas là. Quand le malade souffre ou est angoissé, donc on a... faut souvent...
Vous êtes aussi psychologue, la nuit?
Ah oui, bon, on est tout, la nuit. Tout vient en bloc, la nuit.
On meurt, la nuit?
Oui,
ah oui, beaucoup.
Oui.
Ça vous fait sourire, la question?
Oui, parce qu'on nous a parfois appelé l'équipe croque-mort. C'est pour ça que ça me...
On s'habitue?
Non.
Oh non, je crois pas. Non.
Je me rappelle d'une mort en particulier, mais non. Sinon, non.
Laquelle?
Une dame de 35 ans, qui devait pas mourir cette nuit-là, et puis qui est morte. Et je l'avais... pressenti, j'avais appelé l'interne, j'avais fait tout ce qu'il fallait, heureusement pour moi, parce que je me serais posé des questions. Mais... Et c'est quelqu'un avec qui j'avais, de bonnes relations. On discutait beaucoup de choses et d'autres, de banalités, de la vie courante, de ses enfants, de loisirs. Et elle, j'ai pas pu la toucher. Quand elle est décédée, j'ai... Bon, on a essayé de réanimer, mais bon, ici, quand les malades meurent, on ne le sait pas, c'est pas la réanimation. Il n'y a aucun scope qui sonne pour vous signaler que le cœur s'est arrêté. Et là, c'était particulièrement horrible. Avant, je disais, quand on me posait la question, est-ce que c'est dur de faire ce métier, je disais non. Non, c'est un métier comme un autre. Et depuis ce jour-là, je dis oui, c'est difficile. Parce que ça, c'est très très dur. Comme ça, en 10 ans, c'est trop.
Mais vous vous en remettez pas?
Non, parce que ça recommencera certainement. Et depuis, je ne m'investis plus du tout avec les malades. Par protection, simplement.
C'est pas dommage?
Si, certainement. C'est dommage pour eux, certainement.
Et pour vous?
Non, je... Non, j'ai une vie sociale extérieure, donc...
Il faut savoir se protéger, justement, autrement souffrirait trop, si on...
Je crois que c'est si on prenait tout en compte. C'est déjà difficile quand on reçoit une famille.
Moi, c'est le plus difficile. Quand on a un décès, bon, on a un mort. Pourquoi c'est devenu quelqu'un d'anonyme. Quand on voit la famille qui arrive, là, c'est épouvantable. D'un seul coup, il y a l'histoire qui vous arrive en pleine figure. C'est quelqu'un qui avait une femme, des enfants, des parents, qui avait un métier, qui avait des amis, qui avait... Là, vous avez vraiment quelqu'un qui vous arrive. C'est la relation avec la famille qui vous fait prendre conscience que c'était quelqu'un qui avait une histoire. Ça n'a pas toujours été un hospitalisé. C'était une personne qui avait une vie sociale... Ça vous renvoie carrément à votre propre image, en fait. ou à un parent ou à un ami, mais...
Si vous ne vous investissez plus, est-ce que vous regrettez de vous être investi avec cette femme ?
Non, parce que... Ça lui a certainement apporté quelque chose. Ça... Peut-être pas grand-chose à son niveau, elle, je ne sais pas. On peut plus lui demander, de toute façon.
Vous avez l'impression de servir à quelque chose ?
Ouf, c'est dur, ça, comme question.
Qu'est-ce que vous allez faire, là, maintenant ?
Les médicaments.
Préparer les médicaments.
Pour Véronique, Laurence et Sylvie, la nuit s'est poursuivie au rythme du café et des pauses cigarettes qui ont ponctué toutes nos rencontres dans ce service de l'hôpital Antoine Béclair. Retour dans l'hôpital de jour avec Marie-Thérèse, une des deux techs du service. Une tech, c'est une technicienne d'études cliniques. C'est elle qui suit les patients dans le cadre des essais thérapeutiques. Mais d'abord, Jean-François Delfrécy, le médecin sida du service.
Je comprends que pour un certain nombre de filles, ça soit dur à certains moments. C'est d'autant plus dur qu'on a manqué de personnel. Mais je suis quand même très frappé par le fait que nous avons actuellement beaucoup d'infirmières qui travaillent depuis 10 ans. Donc il n'y a pas eu de départ. Mes premiers malades datent de 1983. Et la salle de garde de Béclair, vous savez, les internes font souvent une série de blagues, m'avait fait une blague en 84-85. Date à l'époque, cette maladie était plus ou moins bien acceptée dans les hôpitaux. En lançant auprès de toute une série de journaux un numéro de téléphone qui était le numéro de mon bureau et en disant « se crée un SOS SIDA ». Ils avaient imité un certain nombre de signatures officielles, ce qui fait que pendant environ 15 jours, on a reçu 100 coups de téléphone par jour avec des gens qui appelaient dans tous les sens. Et il y a eu d'un côté une réaction un peu difficile de la direction qui a mal supporté ce type de « blague » entre guillemets, qui en effet n'était pas peut-être de très bon goût, surtout dans le contexte de l'époque. Et puis de mon côté, au bout d'un ou deux jours, je me suis dit, c'est peut-être l'occasion aussi ou jamais, à partir de là, d'assumer complètement à la fois cette pathologie et puis cette prise en charge. Et finalement, ce qui était une blague au départ, c'est pour ça que je le cite là, est devenu probablement quelque chose d'important dans la prise en charge pour Béclair. A été un moment important.
Vous pourriez nous tracer l'historique de votre service ?
Moi, j'étais moi-même immunologiste fondamental, c'est-à-dire passant beaucoup de temps dans une unité de recherche, au laboratoire, étant clinicien certes, mais finalement faisant plus de recherches. Et au fur et à mesure, donc en 83-84, sont arrivés les premiers patients. Et donc à ce moment-là, j'ai considéré que c'était un élément important en termes de pathologie, sans mesurer. Du tout, par contre, ce que ça allait devenir, ce que ça allait chambouler au niveau de ma vie personnelle et professionnelle, et sans me rendre compte non plus de l'étendue de l'épidémie qu'on allait avoir à gérer. Donc, en gros, ça a démarré 84. Alors ensuite, le service s'est progressivement, puisque j'ai eu des internes et des chefs de clinique qui sont progressivement formés à cette pathologie, et puis le patron du service, il a dû vous l'expliquer, Jean Dormont, s'y est mis dans un deuxième temps, de façon plus officielle, au niveau de l'ANRS, sur la structuration des essais, la gestion des essais thérapeutiques. Donc voilà en gros l'histoire. Alors l'histoire maintenant, donc on a 8 ans de prise en charge de ces patients, avec 8 ans de formation, de coexistence avec le personnel qui s'est progressivement formé à ça, et puis de renouvellement aussi des jeunes médecins en particulier. Mais je crois que le sida pour toute une génération de médecins qui se situe autour de la quarantaine ou de 45 ans, a été un véritable révélateur qu'une épidémie ne pouvait pas être uniquement prise en charge, quelle que soit la qualité, dans des structures hospitalières. Et qu'il fallait que l'hôpital, à ce moment-là, sorte et ait des interactions avec l'extérieur. Et même si on revient après, on aura eu 10 ans où on aura vécu autrement.
Décidément, donc, cette maladie est très utile. Elle fait changer personnellement. Elle humanise l'hôpital, elle fait réfléchir à ce qu'on est, elle redéfinit le statut du malade, elle permet peut-être d'apporter de nouvelles techniques à d'autres pathologies, pas seulement au sida. C'est très utile.
Non, c'est une maladie effrayante. Mais c'est une chose qui est maintenant dite par beaucoup, qui, c'est vrai, a fait réfléchir sur quelles pouvaient être les interactions entre la médecine et les patients, et les médecins et les patients. Alors c'est vrai, je disais en termes de structure pour l'hôpital, c'est vrai aussi, on vous en a déjà peut-être parlé, sur les essais thérapeutiques par exemple, où il est clair que les relations que nous avons pour proposer à un patient de rentrer dans un essai thérapeutique sont totalement différentes de celles qu'il y avait il y a 10 ans, où le malade était quelqu'un de relativement passif, alors que maintenant, en particulier pour ce type de patient qui est souvent informé, où l'information va très vite, où les médias amènent des informations bonnes ou mauvaises, mais où il y a une information, je dirais, extra-médicale, où les relations sont bien différentes. Donc c'est une aventure qui va encore durer 15-20 ans, qui sera ma vie professionnelle.
Vous aurez été un médecin sida ?
J'aurais été en grande partie un médecin sida, mais avec une formation un peu différente, et tout en continuant à faire de l'immunologie par ailleurs, de façon à essayer d'avoir un regard toujours un peu différent quand même.
Un regard ou un espace de liberté ?
Peut-être les deux. Peut-être les deux.
Je me suis retrouvée dans ce service parce que j'étais au laboratoire. Et quand la séropositivité a commencé à arriver en France, je travaillais avec le professeur Delfrécy au niveau laboratoire. Et on a dû mettre en place une technique pour détecter les anticorps. Et on a travaillé un petit peu en collaboration avec le professeur Montagny à l'époque. C'était en 1983. Et j'ai eu cet attachement particulier au niveau de la clinique, parce que les patients venaient se faire prélever dans le laboratoire. Et donc, j'avais leur visage et je me battais d'autant plus pour que l'examen de laboratoire soit le mieux fait possible. J'étais déjà très, très marquée à l'époque de voir ces jeunes patients, qui étaient souvent très jeunes, qui tombaient souvent dans les pommes en plus quand on les prélevait dans le laboratoire. Alors il fallait déjà les tenir et puis essayer de les rassurer quand le prélèvement arrivait, parce que c'était une grosse quantité de sang au départ. Mais ça m'a donné envie d'être plus proche des patients, parce que là c'était personnaliser les actes de laboratoire. Sinon le laboratoire est quand même assez loin de la réalité et a tendance quelquefois à redemander un prélèvement parce qu'il est mal fait, etc. Et maintenant je me bats près de mes collègues de laboratoire en leur disant surtout faites le maximum avec ce prélèvement, même s'il n'est pas parfait, parce que repiquer la personne, c'est à la fois l'agresser, c'est pas grand chose une piqûre, mais répéter, c'est, comme disait un de nos patients, on a l'impression qu'on nous enlève la sève de notre corps.
Si vous n'avez jamais craqué au cours de ces 4 ans dans votre travail, est-ce que ça vous est arrivé de craquer personnellement?
Quand on a eu pas mal de peine dans la journée, on a envie de pleurer un peu le soir en rentrant, c'est normal. Et même quelquefois pleurer avec nos patients, ça m'arrive.
Parce qu'ils pleurent ou...
Oui, parce qu'ils pleurent et ils envisagent un avenir très fermé pour leurs enfants, parce que nos patients ont des enfants. Et quelquefois, ils se livrent à nous avec leurs angoisses qui deviennent trop grosses et... Effectivement, en tant que maman, j'imagine leur problème de envisager de laisser leurs enfants seuls. C'est très dur.
Et vous ne vous dites pas quand vous pleurez que vous faites une faute professionnelle ?
J'essaye d'être souriante, encourageante le plus possible, mais on est des humains avant tout et on a le droit de pleurer. Et quelquefois...
C'est mieux ?
C'est mieux. Enfin, c'est mieux. Non, je ne suis pas sûre que ce soit mieux, mais quelquefois c'est vraiment trop fort. Je ne sais même pas si le ou la patiente qui pleure se rend compte qu'on pleure aussi en même temps. Parce que tout de suite, on se laisse pleurer pendant quelques minutes, puis tout de suite on reprend le dessus et on repart à le reporter un petit peu, quelques pas de plus. Vraiment, j'ai une grande admiration pour eux. Je crois le plus dense souvenir, c'est d'un de nos patients écrivains, finalement. Il m'a apporté beaucoup de réflexions personnelles, qui m'a vraiment poussée par sa discussion, loin dans ma réflexion, finalement, loin dans ma tolérance. Il m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup marqué.
Conduite à tenir en cas d'accident professionnel avec un sujet VIH positif. Conduite immédiate. En cas de piqûre ou contact avec du sang contaminé, saigner et désinfecter la plaie souillée par de l'eau de Javel diluée au demi pendant minimum 15 minutes. vérifier dans le dossier que le patient est réellement VIH positif et ne pas se contenter de on-dit ou d'impression. Sans délai, prévenir ou faire prévenir immédiatement la surveillante du service et contacter un médecin du service du professeur Dormont. Si ces personnes ne sont pas joignables immédiatement, délai supérieur à 15 minutes ou durant la nuit et les week-ends, descendre aux urgences de médecine et voir l'interne qui fera une prescription d'AZT pour 48 heures.
Manuela, aide-soignante.
Depuis 5 ans, je travaille ici, dans le service du professeur Dormont. Donc, je suis aide-soignante. Ce qui veut dire que j'aide l'infirmière dans ses soins, surtout au niveau du nursing, faire manger les malades, l'entourage du malade. Et puis voilà. Quoi.
C'est vous aussi qui avez le rapport le plus direct ?
Je crois, oui, parce que c'est nous qui faisons les toilettes des malades. Et la toilette pour le malade est un moment assez privilégié. Ça dure une heure et demie. Et il se confie souvent à nous plus qu'à l'infirmière, parce qu'une infirmière va faire un soin technique qui va durer 5-10 minutes.
Quand vous êtes venu ici, vous saviez qu'il y avait des malades du sida ?
Il n'y en avait pas encore. Il y en avait un ou deux, mais ils n'étaient pas vraiment hospitalisés. Ils étaient là pour des bilans, des choses comme ça, mais ils n'étaient pas en stade terminal, comme on voit maintenant.
Et vous, personnellement, en dépit des consignes qu'on vous donnait, est-ce que vous avez eu peur ? Est-ce que vous vous êtes dit... Oh là là, je vais changer de service.
Non. Enfin, j'avais peur quand même. Je me disais, bon, comment ça va se passer et tout. Je faisais peut-être plus attention que d'habitude. Mais après, en fin de compte, moi, je crois que je suis restée parce que, bon, les malades du sida, pour moi, hein, d'abord, c'est des gens souvent qui ont mon âge. Enfin, je veux dire, c'est une fourchette entre 25 et 40 ans. Il y a souvent des jeunes. Je veux dire, pour l'instant, j'ai l'impression que je leur apporte quelque chose. Donc, tant que je pense que je leur apporte quelque chose, je reste. Mais bon, la peur de l'attraper par le biais du malade, non.
C'est quoi ce que vous leur apportez ?
Moi, je pense que, bon, le matin, je vois par exemple, le matin, j'arrive, ils sont là, oh, bah, ça fait 3 jours qu'on t'a pas vu, t'étais où ? Enfin, je veux dire, des petits mots, des petites choses comme ça, mais je sens bien que je leur apporte quelque chose, je sais pas, je le ressens et...
Vous vous tutoyez alors ?
Pas tous, mais il y en a. Il y en a. Normalement, il faut pas trop tutoyer les malades, mais quand c'est des gens de son âge, des fois on les connaît depuis 2-3 ans, ils viennent régulièrement. Bon, ils viennent dans un mauvais état, ils ressortent sur leurs jambes bien, et puis malheureusement, ils reviennent dans 3-4 semaines. Enfin, je veux dire, c'est presque une famille à la limite. C'est vrai, même quand on est en vacances ou quand on est à la maison, si on se téléphone entre collègues, on se demande des nouvelles d'un tel ou d'un tel, ça devient vraiment...
Pourquoi il ne faut pas se tutoyer ? C'est interdit par les chefs ?
Ouais. C'est interdit par les chefs, ouais. Mais bon...
Mais ils ont peur de quoi ? Qu'on devienne trop proche ?
Ouais, je pense que ça se fait pas et puis ils ont peur... Les chefs ne veulent pas qu'on s'investisse de trop non plus. Mais ça, c'est difficile aussi de ne pas s'investir. C'est difficile aussi de laisser sa blouse au vestiaire et puis de se dire, bon ben voilà, j'ai fini ma journée et je rentre à la maison, je ne pense plus à rien, ça, c'est pas possible. Enfin, ça dépend des gens aussi peut-être. Mais pour moi, c'est assez difficile. Je veux dire, quand on les voit et qu'on se dit que bon, ils n'ont que 20 ans, 25 ans et qu'ils ont fini leur vie, parce que bon, il faut être clair, je veux dire, c'est... Ça, c'est dur, quand même.
Ça vous a fait changer, vous, le sida ?
Ah, moi, j'y pense beaucoup, ouais. Je crois que les gens ne se rendent pas compte de cette maladie, de ce que ça peut donner. Hein. Je crois que les gens ne se sentent pas concernés, à la limite. Ils ne se sentent pas concernés, alors qu'ici, on voit bien que ça peut vraiment arriver à n'importe qui. C'est vrai. Mais c'est vrai que j'ai envie d'en parler. Enfin, des fois, je rentre le soir et j'ai besoin d'en parler. Mais bon... Quand j'entends « bon, bah, t'as pas autre chose à dire, t'es toujours en train de parler de ça ». Bon, j'ai pas l'impression que j'en parle vraiment tant que ça, mais je dois un peu en parler de trop quand même.
Et quand il meurt ?
Ah ben là... Ça dépend, il y a des gens où ça fait très très mal, et puis il y en a d'autres où ça fait mal, et puis bon, je peux pas dire qu'on est blindé, mais on est quand même habitué à la mort. Enfin, habitué, c'est... Enfin, il y a des gens où ça fait mal quand même. Je ne sais pas pourquoi ces gens-là, plus que d'autres, justement, parce qu'on a peut-être plus parlé, puis qu'ils se sont confiés à nous en nous disant des choses. On connaît un peu leur vie aussi, et puis on se dit, oh là là, celui-là, s'il n'avait pas fait ça, ou si ceci, ou si cela.
Vous jugez alors un peu ?
On est obligé de juger. Enfin, on ne juge pas... Pas méchamment, je veux dire, mais... On se dit, oui, c'est bête, quoi, il aurait pas dû faire ça, mais... Non, on juge pas, mais on y pense. En fin de compte, on y pense tout le temps, quoi. Non, on peut pas se permettre de juger. Non, moi, je juge pas. Je veux dire, face au sida, on peut pas juger. Je veux dire, on peut pas dire, ah oui, bah, il a fait ça, il a eu le sida. Non, c'est trop, je veux dire, c'est une maladie trop horrible, c'est trop, non, on peut pas juger.
Non, c'est pas ça.
Dans un service où l'on soigne les sidéens, tout se partage, y compris la douleur. Plus que tout autre peut-être, Agnès Lévy, psychologue, est au cœur de ce partage. À mi-chemin des trois services de l'hôpital Antoine Béclair, hôpital de jour, service d'hospitalisation continue, réanimation, Agnès Lévy est avec Jacques, le kinésithérapeute, un maillon indispensable dans la chaîne des soins.
J'interviens auprès de beaucoup de gens, notamment les patients, leurs familles, et les équipes. Bon, je crois que je ne suis pas là pour entendre que tout va bien et que tout est formidable.
Qu'est-ce qui va mal en général ?
Ça peut être l'agressivité, oui, qui est souvent mal comprise et qui, en fait, pour certains malades, est le seul moyen de prouver qu'ils sont encore en vie. Et ça, le personnel a du mal à le comprendre.
Est-ce que vous êtes intégré dans l'équipe des soignants ?
Je crois que c'est à vous, il faut leur poser la question. Je pense que je fais partie intégrante de l'équipe, tout en ayant vraiment un rôle différent. Car moi, quand je viens auprès des malades, par exemple, je n'ai aucun geste technique à faire. Hein. Je viens pour écouter, je m'assois, j'ai la durée auprès des patients. Et je n'ai pas de discours scientifique à leur apporter. Donc c'est sûr que j'ai une façon de fonctionner complètement différente que les autres membres de l'équipe.
Les malades, ils vous parlent de quoi ?
Ils parlent de la maladie, de la mort, très souvent. Et ça, ils le disent très clairement, car c'est une pathologie où les gens savent parfaitement ce qui les attend. Et qu'il est hors de question de leur dire « mais non hein ». Ils le savent, et je crois qu'il faut pouvoir écouter ce qu'ils vous disent à propos de leur mort. D'abord, vous ne seriez pas crédible de leur dire « mais non, n'y pensez pas, vous avez encore des années à vivre devant vous ». Ils le savent qu'ils vont mourir. Et ils sont contents d'avoir un interlocuteur qui puisse entendre ce qu'ils ont à dire à ce propos.
Et vous ne dites rien ?
Je crois que ça dépend vraiment des cas. Il y en a où il n'y a rien à dire, ils veulent simplement que vous les écoutiez. Je crois que ce qu'il faut, c'est sentir ce que l'autre attend de vous. Il y en a qui ont besoin d'être assurés, il y en a qui ont besoin de quelqu'un en face d'eux qui soit sincère et qui puisse parler de la mort avec eux. Ils ont des désirs, ils ont peur de souffrir, ils veulent avoir une certaine assurance que le moment venu, il y aura certaines choses qui seront faites ou pas faites.
Est-ce que votre rôle est aussi d'accompagner à la mort ?
Oui. Mais je crois que le moment le plus difficile, c'est quand les gens se rendent compte qu'ils vont mourir. Mais c'est souvent avant vraiment la fin, car à la fin, ils sont inconscients et ils ne se rendent pas bien compte qu'ils vont mourir. Mais l'accompagnement de la mort, oui. On a d'ailleurs aussi fait, l'autre psychologue Alain Belloser et moi-même avons fait une formation d'accompagnement du mourant auprès du personnel.
Qu'est-ce qu'il faut dire ?
Il ne faut pas forcément dire. Ça peut être une écoute, ça peut être un geste, ça peut être simplement une main tenue. Ce qui est dur à faire à tous les niveaux, c'est à la fois savoir s'impliquer et être une personne humaine, et savoir aussi se protéger. Se protéger, ça ne veut pas dire justement rester distant, mais il faut réussir, c'est pas facile, à couper. Essayer, en dehors de l'hôpital, d'avoir une vie autre, bien qu'il y a certains cas qui ne vous lâchent pas, et qu'il y a des possibilités de mal dormir ou d'y penser souvent. Et de se dire qu'est-ce qui va devenir, comment il va être quand je vais revenir demain ou après le week-end. Mais c'est très dur à faire, mais je crois que c'est très important d'arriver à se protéger. Sinon, je crois qu'on ne peut pas assumer son rôle et on ne peut pas bien le faire.
Tu peux ouvrir tes doigts, Stéphane? Tu m'entends là? Tu te concentres sur ta main gauche, s'il te plaît. Bon, alors tu écartes tes doigts. Allez, ouvre. Ouvre ta main gauche. Tu sais? Voilà. Là, ça m'aide un petit peu, tu vois? C'est ça. Maintenant, tu refermes légèrement tes doigts. Tu sens ma main sur la tienne? Oui? Dis-moi, Stéphane. Oui? D'accord. Voilà, tu essaies d'ouvrir ta main. C'est ça, tu vois? Et en m'aidant comme ça, ça la détend un petit peu. Hein, c'est bien Stéphane, on va continuer comme ça. Allez, tu m'aides un petit peu plus.
C'est vrai aussi que nous avons un contact, une approche complètement différente de l'ensemble du personnel soignant. Il ne faut pas oublier que c'est quand même une activité manuelle. Et le contact, le toucher, est très important dans notre profession. C'est notre façon de communiquer principalement. Et pour beaucoup d'ailleurs, c'est une des seules et toutes dernières façons de communiquer. Donc il ne faut pas la négliger.
J'imagine qu'on ne peut pas être kinésithérapeute avec gants.
Rien ne vaut le contact de la main. C'est une démarche très primaire, mais ce qui est regrettable, c'est qu'on oublie toujours dans notre civilisation que le contact du corps, c'est la base de toute relation, hein, quelle qu'elle soit. On rentre dans l'individu lui-même, au fin fond de lui-même, par un contact. Vous en parliez tout à l'heure, vous m'avez vu travailler et... Chez les gens qui sont dans un coma, un coma vigile, le contact est quelque chose de très important parce que c'est une relation, c'est la passerelle qui leur permet d'être encore vers la vie. Hein. Et sans ce contact-là, tout est terminé pour eux. Et ça, c'est quand même primordial. Donc, quel que soit l'individu, quelle que soit son origine, hein, qu'il soit jaune, vert ou rouge, homosexuel ou qui que ce soit, c'est d'abord l'homme, l'individu lui-même qui compte, le reste après.
Les guinguettes, c'est pour oublier?
Non, pas tout à fait. La guinguette, c'était pour avoir, avec les gens de ma commune, un passé commun. Parce que ce sont des gens comme partout qui viennent un petit peu de droite et gauche. Et c'est un bien que, au niveau de la commune, que tout le monde peut partager.
Et ici, j'aime
bien faire partager.
Ici, il s'agit d'avoir un présent commun?
Je le pense, oui. Parce qu'on est quand même de nombreuses heures ensemble et je crois que lorsqu'on a une réussite quelque part, ça satisfait tout le monde. Parce que c'est un travail d'équipe. Et qu'on est bien content de réussir quelque part quelque chose. Et surtout quand ça soigne, quand ça traite un homme.
Parmi toutes les femmes et tous les hommes que nous avons croisés à l'hôpital Antoine Béclair, il nous a fallu choisir. Mais il faut le dire, tous ceux que nous avons interrogés et que nous n'avons pas gardés auraient pu remplacer les voix qui constituent ce grand angle. Quelques mots n'ont pas été enregistrés. Ils émanaient d'une aide-soignante qui craignait que son témoignage affecte un malade ou un séropositif qui l'entendrait. Elle tenait à souligner qu'avant l'hôpital, il y a de nombreuses années de vie, qu'il faut les vivre. C'est probablement la vie de Cécile Goujard, attachée de médecine dans le service du professeur Delfrécy. Elle porte son titre de médecin depuis 10 années. Une fois encore, 10 années, ce sont 10 années de sida en France.
J'ai démarré mon internat en 83, à l'époque où on commençait à parler du sida chez les homosexuels de San Francisco. Donc j'ai vécu l'évolution, la découverte du virus, la découverte de la séropositivité, et puis progressivement les... Donc initialement, je n'avais pas choisi de faire du sida, enfin de m'occuper plus particulièrement des patients porteurs de sida, puisqu'au début de mon internat, il y avait très peu de patients atteints. Et puis progressivement, j'étais impliquée et j'ai choisi maintenant de m'en occuper, oui.
Vous vous souvenez du premier malade ?
Oui, parce qu'il était le premier, parce que c'était un patient dont on parlait beaucoup, parce qu'on prenait beaucoup de précautions, c'était un patient très impressionnant, qu'on prenait beaucoup de précautions pour l'aborder. C'était l'époque où les patients sida étaient isolés dans des chambres, qu'on s'habillait, qu'on se revêtait d'une casaque, d'un masque, d'un chapeau, de bottes pour l'aborder, comme s'il risquait d'être dangereux pour nous. C'était pas tant à cause du danger qu'on pouvait lui apporter, nous, mais du danger que lui pouvait nous apporter. Donc oui, je m'en souviens très bien.
Vous êtes le seul des médecins, ici, Cécile Goujard, qui avait effectué la session d'accompagnement à la mort.
Oui.
Pourquoi ?
Pourquoi ? Probablement parce que je me sentais personnellement interpellée, je pensais que c'était important que la mort ne repose pas seulement sur les épaules des infirmières et des aides-soignantes. C'est vrai que nous, les médecins, quand un patient est en train de mourir, on peut ne pas rentrer dans la chambre, on n'a plus rien à lui faire. Éventuellement, on fait même des prescriptions qui sont faites pour que les gens soient confortables, meurent de façon décente. Ce sont des prescriptions qu'on peut faire sans voir le patient.
Derrière la vitre ?
Derrière la vitre, oui. C'est quelque chose qu'on peut laisser complètement à l'équipe soignante, l'équipe soignante paramédicale. Moi, c'est quelque chose que j'ai toujours fait dans le suivi de mes patients, c'est-à-dire que je les ai vus éventuellement bien portants, je les ai vus devenir malades et que j'ai souhaité qu'ils finissent bien et que grâce à moi, éventuellement, ils puissent mourir dans la dignité. C'est la raison pour laquelle j'ai fait cette formation qui m'a beaucoup apporté en plus sur le plan personnel.
Qu'est-ce que ça vous a apporté sur le plan personnel ?
Sur le plan personnel, il y a des confrontations avec l'équipe. C'est vrai qu'on parle toujours de l'équipe hospitalière, mais en fait, on n'a pas toujours beaucoup d'échanges avec le personnel, faute de temps, faute de motivation particulière pour parler, pour dialoguer. Et puis, il nous manque aussi une formation psychologique qu'on n'a pas du tout au cours des études médicales.
Et vous tenez-vous à être jusqu'au bout ?
À accompagner les malades jusqu'au bout ? Oui. Et je pense qu'un certain nombre de patients ne souhaiteraient pas ou vivraient comme un abandon, de patients, de malades ou de l'entourage des malades, de personnes qui vivent avec des séropositifs, vivraient très mal que le médecin abandonne son malade dans ces derniers temps. Je pense que c'est un échec de la relation médicale. Parce que les malades ont besoin de se raccrocher à quelque chose. Et que même les malades qui sont les plus conscients de la gravité de la chose, peut-être de l'imminence de leur mort, quelques jours avant leur mort, ils demandent encore quelque chose. Ils ont encore besoin de nous, même si c'est pour des traitements qui sont des traitements de confort ou des traitements un peu...
Illusoires. Vous n'avez pas parfois envie de vous épargner, de laisser tomber ?
Si, il y a des jours où je rentre et j'ai pas envie de... C'est vrai que j'aurais envie de faire autre chose, mais quand je reviens le lendemain, je peux quand même assurer.
Et quand vous retirez cette blouse blanche que tout le monde porte ici et que vous rentrez chez vous, vous vous dites que le sida, pour vous, a changé des choses ?
Ça a aussi changé des choses parce que j'ai dans mon entourage des gens qui sont séropositifs. Donc, ça change des choses ici à l'hôpital et ça change aussi des choses oui, à l'extérieur.
Vous voulez dire des amis ?
Hôpital de jour, bonjour.
Alors, je préfère t'en mettre sur ton plateau, tu le prépares déjà à l'avance.
Je prépare toujours comme ça. C'est à grand angle, les soignants au cœur des années sida. Avec Claude, Joël, Yvonne, Isabelle, Annie, Véronique, Laurence et Sylvie, infirmières, Roselyne, Sylvie, Isabelle, Corinne et Manuela, aides-soignantes, Michel-Anne, Marc et Alain, internes, Jean Dormont, Jean-François Delfrécy, François Brivet, Cécile Goujard et Anne Dulioust, médecins,
Marie-Thérèse Ranou et Martine Maul, technicienne d'études cliniques, Jacques, kinésithérapeute, et Agnès Lévy, psychologue, tous soignants à l'hôpital Antoine Béclair. Grand angle, les soignants au cœur des années SIDA, Michel Créis, Benoît Innocent, Georges Arrigoni, François Bréhigné, Ludovic Cellier.
Cette émission a été diffusée la première fois le 28 novembre 1992 sur France Culture. Vous pouvez la télécharger et la réécouter à la page des nuits sur le site franceculture.fr.
Ha!
like me.